BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Lorraine Goumeau.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 60 minutes business, votre rendez-vous de mi-journée d'information sur notre chaîne. Le programme de ce midi, évidemment, on va reparler de la loi pouvoir d'achat. Vous savez que nos députés se sont couchés très très tard après des débats houleux et plus de 1000 amendements déposés. Eh bien, ça y est, elle vient d'être adoptée. C'est Thomas Schnell qui va nous expliquer ça dans quelques minutes. On parlera également de Total Energy et CMA-CGM, toujours autour du pouvoir d'achat, qui font un geste en faveur des Français. Ce sera Pierre Kupferman qui sera avec nous pour décrypter ces annonces. Et puis, comme tous les jours à 12h30, c'est BFM Business avec vous. Ce midi, un témoignage exclusif d'un de nos auditeurs qui, figurez-vous, a changé de carrière en regardant la séquence recrutement. Il a postulé chez un de nos invités. Il nous raconte comment il a changé de job. On aura aussi un expert en RH qui viendra répondre à quelques-unes de vos questions. Et comme tous les jours, précisément, deux entreprises qui recrutent. À tout de suite. Nos députés se sont couchés tard. Le projet de loi, lui, a été adopté à l'Assemblée à l'issue de 4 jours de débat, 1000 amendements déposés. Eh bien, nos députés adoptent le texte du gouvernement en première lecture. Bonjour Thomas Schnell.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Alors Thomas, ce texte prévoit une série de mesures pour redonner en urgence du pouvoir d'achat des Français. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre?
Eh bien, parmi les toutes dernières mesures qui ont été adoptées cette nuit, deux amendements de l'opposition, l'un des Républicains pour relever le prix auquel EDF vend son électricité à ses concurrents dans le cadre de l'AREN, au moins 49,50 €. L'autre amendement adopté en dernière minute, c'est celui d'Europe Écologie Les Verts pour permettre d'utiliser de l'huile alimentaire à la place des carburants classiques. Il y a également, bien sûr, la revalorisation des pensions, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, en passant également par le triplement du plafond de la prime Macron. Les députés de gauche, eux, ont fait bloc contre plusieurs dispositions du texte qui facilitent le recours aux énergies fossiles pour parer à de possibles pénuries liées à la guerre en Ukraine, l'instauration de dérogations au droit à l'environnement afin d'accélérer la mise en service d'un terminal méthanier au Havre, à même d'acheminer du gaz en provenance d'autres pays que la Russie. Ce terminal, dont la mise en service est prévue pour la fin 2023, ne serait autorisé que pendant 5 ans. Autre mesure qui a ulcéré la gauche, le relèvement du plafond des émissions de CO2 pour asseoir le redémarrage de la centrale à charbon de Saint-Avold. Elle a été fermée fin mars. Le coût anticipé par le gouvernement pour toutes ces mesures, ce paquet de mesures, c'est 20 milliards d'euros. Il doit présent être complété par le projet de loi de finances rectificative qui doit commencer à être débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale à partir de 15h. Au menu, des mesures particulièrement controversées comme la suppression de la redevance audiovisuelle.
Merci beaucoup Thomas Schnell. Comment le gouvernement compte-t-il redresser les finances publiques? Le programme a été publié hier vers 22h. L'exécutif s'apprête à l'envoyer à Bruxelles, ce programme de stabilité et son cadrage économique pour les 5 prochaines années. C'est un programme qui rompt avec le quoi qu'il en coûte et promet un retour à la maîtrise des finances publiques. On en parlait en introduction. Total a annoncé ce matin qu'il allait accorder à partir du 1er septembre et jusqu'à la fin de l'année une nouvelle ristourne sur le carburant vendu dans ses stations-service. Un effort que Bercy estime à un demi-milliard d'euros. Bonjour Pierre Kupferman. Un demi-milliard d'euros, c'est ça qu'on peut estimer?
Tout à fait. Alors, on va expliquer déjà quelles sont ces mesures, parce qu'elles se feront en deux temps. Il y a d'abord une remise de 20 centimes par litre à partir du 1er septembre, et ensuite cette remise passe à 10 centimes du 1er novembre au 31 décembre. Toutes les stations-service du groupe sont concernées, ça vaut pour le réseau Total Energy, mais aussi pour le réseau Total Access. Le ministère de l'Économie a vraiment mis la pression pour que le groupe ne fasse pas d'exception, donc ce sera dans les stations des grandes métropoles, des autoroutes, mais aussi en zone rurale. Ça fait au total 3300 stations-service. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en France, on dénombre au total un petit peu plus de 11 000 stations-service, dont vous avez plus de la moitié qui sont accolées à des super ou des hypermarchés. Donc, on va dire que parmi les stations traditionnelles, Total est aujourd'hui majoritaire en France, avec plus d'une station sur deux.
Alors, vous parlez d'une pression de Bercy. On écoutera dans quelques secondes Bruno Le Maire. Est-ce qu'on a forcé la main à Total?
Bah oui, on peut dire ça. C'était un petit peu... Soit vous faites un geste tout de suite pour les automobilistes, soit on laisse passer au Parlement cette taxe sur les super-profits que réclame une partie de l'opposition. Et donc, Total a accepté de faire cette ristourne qui, selon les estimations de Bercy, devrait lui coûter entre 500 et 600 millions d'euros. En fait, ça va dépendre de l'effet sur les ventes. Si faire son plein chez Total revient vraiment beaucoup moins cher que partout ailleurs, bah, les automobilistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bouder des concurrents qui n'auront sans doute pas tous les moyens de s'aligner.
Oui, on verra ça probablement dans quelques mois. Alors Bruno Le Maire était invité ce matin à BFM TV. Il a aussi parlé de la ristourne de 18 centimes qu'accorde aujourd'hui en ce moment l'État. Il a dit qu'il était prêt à discuter avec les députés LR pour revoir de manière provisoire à la hausse ce montant, à condition de renoncer à d'autres aides.
Tout à fait. Alors on en est encore dans le cadre des discussions. Elles se poursuivent, rien n'a été tranché. On sait que ça ne peut pas être 40 centimes. Bruno Le Maire y est opposé. Mais il faut quand même avoir en tête que cette ristourne, elle coûte cher à l'État. Pour l'instant, c'est 750 millions d'euros par mois. Et puis, elle est injuste. Vous avez une étude qui a été publiée ce matin par le Conseil d'analyse économique qui révèle qu'en moyenne, les 10% des ménages les plus aisés ont, grâce à cette ristourne, économisé sur le seul mois d'avril 18,50 euros. Alors que pour les ménages les plus modestes, l'économie se limite à 9,50 euros. Pourquoi ? Parce qu'en moyenne, les ménages les plus aisés consomment deux fois plus de carburant.
Voilà, c'est mathématique. Merci beaucoup Pierre Kufferman pour ce premier décryptage. On a parlé d'économie, on a analysé ces mesures du côté économique. On va les analyser rapidement du point de vue politique. Avec un invité au téléphone, il s'agit de Leonidas Kalogeropoulos. Bonjour Leonidas.
Vous entendez effectivement. Oui, je vous entends très bien, vous m'entendez également.
Oui, tout à fait. Alors, vous entendiez ce qu'on disait avec Pierre Kufferman. Est-ce qu'on peut dire que c'est le politique qui a vraiment mis la pression sur nos entreprises ?
Et je voudrais avoir un regard un peu différent sur ce qui vient de se passer et ne pas regarder le geste que les entreprises ont consenti, tant CMA, CGM que Total, comme étant une sorte de d'acceptation d'une menace. Non, il y a une situation objective qui est que l'économie française, que la France, que l'Europe sont rentrées dans une économie de guerre, que nous sommes collectivement dans une situation extrêmement compliquée, qu'il y a des sacrifices à faire qui, pour le moment, sont des sacrifices à relativiser. Il y a quand même pas très loin de nous, en Europe, des gens qui se battent. Nous, on se bat avec des armes économiques. Et que chacun fasse un geste, vous savez, ça remonte à loin. Je n'ai pas parlé des taxis de la Marne, mais que les entreprises s'engagent et un engagement national, un engagement citoyen, que ça se fasse dans le cadre de discussions avec l'État, c'est naturel, mais de dire qu'ils ont, plié sous la menace, je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut le regarder. Il y a une prise en considération de plus en plus importante des entreprises, de toutes les parties prenantes, de leur image auprès de l'opinion publique, et je pense qu'il faut au contraire saluer le geste de CMA-CGM, saluer le geste de Total et dire que les entreprises sont pleinement dans la nation, dans leur rôle, dans un rôle très citoyen et que ce qui vient de se faire montre qu'il n'y a pas uniquement en taxant les entreprises pour que l'État prenne l'argent et le redistribue ensuite comme s'il était seul juge et seul pertinent sur la manière d'utiliser l'argent intelligemment. Là, il y a un geste direct qui est fait. Je pense qu'il faut le saluer et ne pas le regarder comme étant une contorsion. En tant que chef d'entreprise et vice-président d'un mouvement patronal qui s'appelle Éthique, personnellement, je pense que c'est en cette période de situation de guerre, quelque chose qui est très positif.
Merci beaucoup, Leonidas Kalogero. Voilà, dans la nation, dans leur rôle, nos entreprises, c'était le message qu'on comprend. Je rappelle que vous êtes PDG du groupe Médiation et Argument. Dans l'actualité aussi, un nouveau rebondissement dans les négociations commerciales entre les acteurs de la distribution, les industriels et les agriculteurs. À l'occasion d'un comité de suivi hebdomadaire, hier, le gouvernement a tapé du poing sur la table, surtout contre deux mauvais élèves qui, visiblement, ne jouent pas le jeu. C'est Pauline Tadevin qui nous explique.
L'exécutif refuse de donner des noms, mais n'est pas avare en qualificatif. Il parle de francs-tireurs aux pratiques très problématiques et déloyales. Dans le viseur, une enseigne et une centrale d'achat qui s'assoient sur la loi Egalim mais sur la charte relations fournisseurs, explique un proche du ministre de l'Agriculture qui précise qu'elles auraient passé des notes de crédit dans le seul but de gagner des parts de marché. Concrètement, elles auraient augmenté des prix en rayon sans avoir accepté les hausses de tarifs demandées demandés par leurs fournisseurs. Un point déjà soulevé par un rapport des sénateurs cette semaine. Les renégociations commerciales avancent, mais elles pourraient donc aller bien plus vite si certains distributeurs ne refusaient pas le dialogue avec les entreprises et les pouvoirs publics, dit un proche du gouvernement qui précise que Bercy a prévu de saisir en cette fin de semaine la commission sur l'examen des pratiques commerciales et qu'il n'est pas exclu non plus que la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes s'empare du dossier.
Va-t-on vers un retournement des prix de l'immobilier ? C'est la question qu'on va poser à Marie Cœur de Roy qui nous rejoint. Bonjour Marie.
Bonjour Lorraine.
Alors on reparle des prix de l'immobilier avec vous et cette question, est-ce que demain un retournement nous attend ? Vous avez épluché pour nous le dernier baromètre de meilleurs agents et ça nous montre qu'en tout cas, il y a peut-être une accalmie dans les grandes villes de notre pays.
Et cette fois, c'est pas moi qui le dis, effectivement, ce sont les experts de meilleurs agents qui parlent carrément d'un premier semestre terne, je les cite, par rapport aux années précédentes. Alors effectivement, il faut bien regarder que la hausse des prix est toujours là, mais elle est clairement en train de ralentir, et puis très fortement à l'échelle nationale, donc grandes villes, zones rurales, tout ce que vous voulez. On a une hausse des prix sur le premier semestre qui est d'1,7%, donc entre janvier et juin. Et pourtant, cette hausse l'année précédente, elle flirtait avec les 4%. Et même si je regarde 2019 et 2020, on était autour de 3,5% de hausse. Et même si je regarde 2018, là encore, on était sur une hausse d'environ 2,5%. Donc on était au-delà de ce à quoi on assiste en cette année 2022. Très concrètement, vous parliez des grandes villes, c'est effectivement encore plus le cas dans les très grandes villes, dans les 10 plus grandes villes de France. En fait, les prix, ils bougent carrément plus. On est à 0, 0,2, 0,1, voire 0 tout court, voire même des légères baisses, comme à Montpellier. En fait, il n'y a plus qu'une seule grande ville où les prix continuent à progresser. En l'occurrence, c'est Marseille, mais parce qu'on partait quand même de très très bas.
Ouais. Alors vous nous parlez des grandes villes, mais les autres villes, les grandes villes, les villes moyennes, les plus petites villes, comment ça se passe ?
Oui, c'est ça. Alors en fait, il y a différents types de grandes villes. Alors, il y a très grandes villes, là, dont je vous parlais. Il y a les autres, les grandes villes, mais un peu plus petites. Et là, même constat, en fait. Hein. Sur le premier semestre, quand on regarde donc, ces 50 plus grandes villes de France, donc on élargit un tout petit peu le spectre, on est en progression d'1,6% sur ce premier semestre. En fait, 1,6%, c'est tout simplement une hausse qui est deux fois plus faible que celle de l'année d'avant, donc de 2021, puisqu'on était à 3,2% de hausse. Et c'est un ralentissement qui est encore plus net si je le compare aux années d'encore avant, c'est-à-dire 2019 et 2020. Où là, on était autour de 4,5% de hausse. Donc, on est redescendu à 1,6. Donc là, vous allez me dire, OK, donc les très grandes villes, les villes grandes mais un peu plus petites, ça commence à caler. Bon, les zones rurales, puisqu'on a beaucoup dit pendant les confinements avec le télétravail, tout le monde est parti un petit peu s'enfermer ou se mettre dans la maison de campagne, etc.
Et alors ?
Bah, en fait, c'est les zones rurales, ce sont les seules zones, les seuls territoires où ça continue de progresser très nettement, puisqu'on est encore en hausse de 4,5% depuis le début de l'année. Pour autant, encore une fois, on assiste effectivement à ce début de retournement, puisque, pareil, si je compare à l'année dernière, bah là, on est en hausse de 4,5%. L'année précédente, on était en hausse de quasiment 7%. Il est en train de se passer quelque chose, et si je regarde même le seul mois de juin, et bah là, on cale carrément, puisqu'on est en hausse de 0,6% dans ces zones rurales. Donc, est-ce qu'on est effectivement à l'aube de ce retournement des prix ? Je crois qu'on y est, ouais.
Bon, voilà, vous avez entendu, donc, c'est le calme qui arrive.
C'est le calme, ouais.
Bon, avant la tempête, on verra bien. À suivre ces sujets immobiliers avec vous. Merci beaucoup, Marie Cœur de Roy. Immobilier aussi en Chine. Figurez-vous que la Chine est ébranlée par une crise immobilière. On en parle un petit peu sur notre antenne. Près d'un an après les déboires d'Evergrande, eh bien de nombreux propriétaires sont au bord de la faillite. Certains sont simplement incapables de poursuivre leur chantier et ne peuvent pas livrer les logements vendus avant leur construction. Résultat, des dizaines de milliers de propriétaires ne veulent pas payer les mensualités, ce qui aggrave la situation des promoteurs. C'est à Pékin, Sébastien Lebelzig, notre correspondant, qui nous explique.
Cette grève des paiements fait boule de neige en Chine, où l'on est passé en une semaine de 30 à plus de 300 projets immobiliers concernés dans une cinquantaine de villes. Les propriétaires de logements en construction et dont les travaux sont à l'arrêt refusent en effet de payer les mensualités. Ça n'arrange pas évidemment la situation des promoteurs qui menacent de mettre la clé sous la porte. Il faut savoir qu'en Chine, plus de 85% des acquisitions se font en pré-vente. C'était 50% en 2005. Les prêts hypothécaires commencent des mois, voire des années avant que les bâtiments ne soient terminés. Les projets n'ont ralenti que depuis 2020, lorsque le marché immobilier chinois est entré dans une crise profonde en raison de l'épidémie de Covid et du ralentissement des ventes. Ces propriétaires se sont alors regroupés en collectif pour peser sur les promoteurs. Et on parle maintenant de près de 60 milliards d'euros bloqués par cette grève. Les autorités chinoises, comme d'habitude, ont commencé par censurer ce mouvement sur les réseaux sociaux pour éviter un effet de panique. Mais elles ont rapidement tenté d'éteindre l'incendie en demandant aux banques d'accorder davantage de crédits aux promoteurs en difficulté pour terminer terminer les chantiers.
Un mot du Royaume-Uni où c'est la dernière phase de campagne pour succéder à Boris Johnson à Downing Street. 160 000 adhérents du Parti conservateur doivent voter le mois prochain pour désigner qui des deux finalistes engagera le destin du Royaume-Uni. À Londres, c'est notre correspondante Marion Russell qui vous explique.
D'un côté, il y a Rishi Sunak, l'ancien ministre des Finances du gouvernement Johnson. C'est sa démission le 5 juillet dernier qui avait entraîné une vague de départ au sein du gouvernement et finalement la démission du Premier ministre lui-même. Cet homme, c'est un fervent défenseur du Brexit et aujourd'hui, il veut se présenter comme le candidat honnête, refusant de promettre aux Britanniques une quelconque baisse des impôts alors que le taux d'inflation bat des records. Néanmoins, il souffre d'une réputation quelque peu entachée par différents scandales, l'un autour de la résidence fiscale de son épouse, l'autre autour de son implication lors de fêtes clandestines au moment des confinements. De l'autre côté, il y a Liz Truss, l'actuelle ministre des Affaires étrangères. Alors, elle est souvent comparée à Margaret Thatcher. Elle la cite d'ailleurs parmi ses inspirations. Elle est également proche du clan Johnson. De son côté, elle promet aux Britanniques une baisse des impôts. Alors, la course à l'investiture est lancée. Les deux candidats s'affronteront le 4 août prochain lors d'un débat télévisé. L'objectif, ce sera de convaincre les 200 000 électeurs du Parti conservateur. Résultat, le 5 septembre.
Et une nouvelle de la French Tech pour conclure. Mariage en vue dans la gestion financière. C'est le français Conto, leader européen du marché, qui rachète Panta, le champion allemand de la FinTech. Une opération destinée à permettre à Conto de devenir la solution d'un million de PME et d'indépendants en France et en Europe d'ici 2025. Alexandre Pro, le cofondateur de Conto, était ce matin sur BFM Business au micro de Stéphane Pedrazzi. On l'écoute.
Cette opération, c'est l'étape assez naturelle. Depuis 5 ans, on se développe en France et en Europe, donc Allemagne, Italie, Espagne. On sert aujourd'hui 250 000 indépendants, TPE et PME, donc dans ces 4 marchés. Et avec la levée de fonds qu'on a annoncée il y a à peu près 6 mois, notre série D, donc d'à peu près 500 millions d'euros, on avait annoncé la volonté d'investir encore plus en France, mais aussi en Allemagne, en Italie et en Espagne. Et le rapprochement avec Penta, donc notre concurrent allemand, est tout à fait dans cette lignée pour accroître encore plus notre présence en Allemagne et arriver encore plus vite à notre objectif moyen terme de servir 1 million de clients, donc 1 million d'indépendants TPE et PME en Europe.
On part à la bourse rejoindre Aude Kersulek. Bonjour cher Aude, la bourse de Paris extrêmement hésitante depuis ce matin.
Ah, on a hésité plusieurs fois entre le rouge et le vert et là on monte mais c'est quand même assez faible, hein, 0,16%, 6216 points pour le CAC 40. Alors on digère les actualités macroéconomiques et elles sont nombreuses au lendemain de cette première hausse de taux en 11 ans pour la BCE et de cette surprise en plus, hein, d'un choix d'une hausse de 50 points de base plutôt que 25 points de base. Alors c'est vrai que ça a eu un effet positif direct hier sur le marché de devises et sur la paire euro-dollar, mais depuis quelques heures et bien finalement ça s'est déjà estompé puisque l'euro repère du terrain et on est en ce moment à 1,014$. Et puis on a eu aussi ce matin la publication des PMI flash pour le mois de juillet pour la zone euro. Alors ils ne sont pas bons pour la zone euro, on a une contraction de l'activité alors manufacturière en France et une contraction de l'activité générale en zone euro dans le secteur privé. Donc ça, ce sont vraiment des éléments assez négatifs et qui nous font penser, hein, qui font penser les économistes de SNB qui délivre ces indicateurs, et bien que la récession est tout de même très probable dans cette zone. Face à ça, les indices manquent un peu de conviction, de vigueur, de volume, hein, aussi. Même si ça va un petit peu mieux là, depuis quelques minutes, on est repassé dans le vert. On est au-dessus des 6200 points pour le CAC 40. Et puis avec un bilan de la semaine qui serait quand même assez positif, on était quand même pas mal descendu en fin de semaine dernière. Les plus fortes hausses de l'indice parisien, Unibail Rodamco, plus 4,3%, 51,07€. Puis viennent L'Oréal et Airbus à plus de 1,5%. Du côté des baisses, les bancaires, Société Générale et BNP Paribas qui perdent 1,8% et Thalès moins 1,6%. Et on souffle aussi du côté de l'Allemagne avec ce plan de soutien aux fournisseurs de gaz Uniper qui a été accepté et donc l'État qui prendra 30% de l'entreprise sous forme d'obligations hybrides. Uniper qui prend plus de 5% à la Bourse de Francfort.
Pour conclure, c'est aussi une semaine de résultats et ça flanche aussi.
Et oui, notamment hier soir du côté des jeux vidéo en France, Ubisoft. Alors, c'est vrai que la période faste de la crise sanitaire est déjà terminée parce que au niveau des ventes et du net booking, c'est un indicateur dans ce secteur-là, eh bien, on est en baisse de quasiment 10% pour cette période, hein, du premier trimestre en exercice décalé. Et puis Ubisoft qui nous annonce surtout un retard d'une sortie de son jeu vidéo phare Avatar qui devait avoir lieu cette année et qui sera retardé 2023-2024. On ne sait même pas voilà pourquoi la valeur perd plus de 2% à la bourse. Et puis une autre entreprise de la technologie où ça va assez mal, c'est Somfy. Une grosse déception, le chiffre d'affaires stagne, mais la marge opérationnelle, elle serait même moins bonne qu'espérée. Donc moins de rentabilité. Les investisseurs sanctionnent largement la valeur qui perd 13% à 118 euros. Mais c'est surtout aux États-Unis que ça va se jouer hein, cet après-midi, puisque hier, on a eu le résultat de Snap pour le deuxième trimestre. Snap qui a publié sa plus mauvaise croissance d'utilisateurs pour le réseau social depuis 2017 et une perte nette aussi hein, pour ce trimestre de plus de 400 millions de dollars. Le titre perd 26% après bourse, donc on verra quand la bourse rouvrira, ça pourrait peser dans les indices. En tout cas, pour le moment, les futurs américains sont dans le vert et puis on aura d'autres gros morceaux ce soir à venir, notamment Twitter après clôture. Le CAC lui prend 0,18% à 6212 points.
Merci beaucoup, Aude Kersulec, en direct de la Bourse de Paris. À suivre, Pascal Samama avec nous en plateau pour décrypter eh bien, le salon de l'aéronautique qui se finit à Londres et puis parler évidemment du match Boeing-Airbus. À tout de suite.
BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Lorraine Goumeau.
On va parler aviation avec la clôture du salon aéronautique de Farnborough du côté de Londres qui est prévue aujourd'hui. On va parler du match Boeing-Airbus avec vous, Pascal Samama. Bonjour.
Bonjour Lorraine.
Alors on peut dire que Boeing, dans cette bataille, s'est largement imposé face à Airbus, notamment grâce au 737 MAX.
Bah exactement. Hein. Il y a toujours ce duel dans les salons aéronautiques entre Boeing et Airbus. Généralement, on va faire un petit peu un cocorico européen, c'est Airbus qui gagne. Là, à Farnborough, c'est quand même un salon qui est plus favorable à Boeing. Boeing a récolté 297 commandes contre 85 chez Airbus. Alors, parmi les 297, il y a bien sûr cette commande de 100 appareils chez Delta Airlines qui fait la différence.
Alors, pour Airbus, je vais mal le résumer, mais ça s'est plutôt passé calmement ce salon.
Ça s'est passé très 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 calmement. Hein. 85 commandes, c'est pas grand chose, d'autant plus qu'une grosse partie des commandes, c'est-à-dire celle d'EasyJet pour 56 appareils, c'était une confirmation de commande. La commande était quasi faite, hein. Ils sont juste venus signer. Mais il faut quand même se rappeler qu'il y a eu au mois de novembre le salon de Dubaï. Où là, c'est carrément Airbus qui a dominé avec 408 commandes, soit 4 fois plus que Boeing.
Bon, cette bataille, c'est une chose. C'est pas tout d'avoir un carnet de commandes bien rempli ou très bien rempli. Il faut aussi, derrière, que les cadences de production suivent. Et on peut dire que 2022, ça va pas être une année très très facile pour justement tenir ce cahier.
Et là, pour tout le monde, pour Boeing, pour Airbus, mais aussi pour l'ensemble des constructeurs, que ce soit dans le civil ou dans le militaire. Pourquoi ? Pour une raison très simple, pénurie de composants, mais aussi problème d'approvisionnement de matières premières. Alors les composants électroniques, on sait très bien pourquoi ils sont en panne. Hein. Il y a des problèmes en Chine, il y a le confinement qui redémarre, les usines ferment, les usines sont saturées de commandes. L'industrie aéronautique n'est pas prioritaire, c'est pas celle qu'on livre en premier. Il y a un tas d'autres industries comme l'automobile qui passent devant. Et puis aussi, dans les matières premières, il y a le titane qui vient principalement de Russie. Et le titane dans l'aéronautique, c'est nécessaire alors pour beaucoup de choses, pour le fuselage, pour le moteur, les tuyaux, turbines, les trains d'atterrissage, les conduites hydrauliques, bref, sans titane, pas d'avion et sans avion, on ne peut pas décoller. Et comme le rappelait quand même Guillaume Faury, le patron d'Airbus, on a besoin de moteurs parce qu'on ne fabrique pas des planeurs.
Ben oui, ils ne fabriquent pas des planeurs. Alors, il manque plein de composants, plein de matières premières, vous venez de nous le dire. Et puis voilà, évidemment, les usines et les ateliers d'assemblage qui sont un petit peu dépeuplés. Alors, on a parlé du civil. Est-ce qu'il y a eu des annonces importantes côté militaire, Pascal ?
Alors, dans le militaire, il n'y a pas d'annonce de commande, bien sûr. Ça ne se passe pas de cette façon-là. On ne vient pas sur un salon signer des commandes. Ouais. Ça passe par un processus qui est quand même rodé, un processus étatique qui est très contrôlé. Mais il y a eu des annonces technologiques. Et des annonces technologiques, on a parlé du SCAF sans en parler, parce qu'on a parlé du Tempest, qui est le concurrent du SCAF. Le concurrent du SCAF fait par les Britanniques avec les Italiens et les Suédois. Il a été annoncé donc que BAE Systèmes, le maître d'œuvre du projet, pourra présenter un démonstrateur d'ici 5 ans, ça fait 2027-2028, bien avant 2030, et que l'avion pourrait être livrable à partir de 2035, alors que le SCAF pose problème. On a déjà parlé souvent du conflit entre Dassault et Airbus, qui, on l'espère, va se résoudre. Il y a eu un deuxième appareil technologique quand même qui est assez important au niveau militaire, c'est la présentation d'un concept pour la Royal Air Force d'un avion hypersonique, un avion qui ira à Mach 5. On n'en sait pas beaucoup plus, mais on sait que c'est une nouvelle révolution dans l'aviation militaire.
Voilà, un avion hypersonique pour la Royal Air Force. Bien sûr, vous continuerez à suivre ces sujets pour nous. Merci beaucoup Pascal Samama de la rédaction de BFM Business. Écoutez, on va toucher un mot tout de même de Coinbase. Vous avez peut-être suivi cette histoire dans les crypto-monnaies. 3 inculpations pour délit d'initié. C'est une première dans cet univers crypto-monnaie. D'anciens responsables de Coinbase ont été inculpés pour délit d'initié, un ancien directeur de produit de la plateforme, son frère et un ami. Ils sont accusés d'avoir effectué des transactions illégales sur au moins 25 cryptos actifs et leur procurant des gains de près de 1,5 million de dollars. C'est le procureur en charge de l'affaire à New York qui dit que ces accusations sont un rappel supplémentaire que le Web.3 n'est pas une zone de non-droit. Et puis un mot de l'Ukraine, où les territoires séparatistes pro-russes bloquent Google. Les autorités des deux territoires pro-russes de l'Est de l'Ukraine ont annoncé vouloir bloquer le moteur de recherche Google en l'accusant de promouvoir la violence contre les Russes. Les autorités séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine, comme d'ailleurs la Russie, cherchent à renforcer leur contrôle de l'information depuis le lancement fin février de l'offensive de Moscou contre l'Ukraine. Dans quelques minutes, c'est BFM Business avec nous, avec vous. Restez avec nous. Nos députés se sont couchés tard hier soir, mais ils ont adopté le projet de loi de pouvoir d'achat. 4 jours de débat où 1000 amendements déposés, triplement de la prime Macron, revalorisation des pensions de retraite et des prestations sociales, ou encore un chèque alimentaire. Total Énergie qui annonce des remises de carburant. CMA-CGM qui va faire un effort. Je vous décris, Total va réduire les prix à la pompe jusqu'à la fin de l'année. Une baisse de 20 centimes par litre au 1er septembre, au 1er novembre. Pas seulement sur les autoroutes et peu importe le montant du plein. Et puis à partir du 1er novembre, ce sera une réduction de 10 centimes par litre. De son côté, le transporteur CMA-CGM va baisser ses tarifs. Moins 100 euros par conteneur pour les exportations depuis la France. On écoute Bruno Le Maire à ce sujet.
Je préfère que l'argent aille dans la poche des consommateurs plutôt que dans la poche de l'État. Et je préfère le geste de Total à une taxe supplémentaire dans un pays qui regorge déjà de taxes. Donc je salue la décision de Total. Je pense que c'est une décision juste.
Vous avez mis une grosse pression sur Total depuis plusieurs semaines.
Il y a eu une négociation intense qui a été menée pour arriver à cette décision qui est, je le redis, une décision juste, une décision forte. Et une décision bonne pour les consommateurs. J'ai aussi écouté la majorité, on est en discussion depuis plusieurs jours. Je vois bien que, y compris dans la majorité, certains disaient il faut que Total rende une partie de ses bénéfices aux consommateurs.
Voilà Bruno Le Maire qui était au micro de nos confrères de BFM et RMC ce matin. Un mot de la bourse pour conclure. Le CAC 40 qui était assez hésitant ce matin, il est à plus 0,14% à 6209 points. Tout de suite, c'est BFM Business avec vous. Il est midi 31 sur BFM Business.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Vous le savez, tous les midis, on répond à vos questions, à vos témoignages, à vos réactions sur notre antenne. On fait venir également deux recruteurs qui nous rejoindront d'ici 15 minutes. Pour nous joindre, pour joindre notre rédaction, même au milieu de l'été, c'est très simple. Vous vous rendez sur notre site web bfmbusiness.fr. Il y a un formulaire BFM Business avec vous que vous pouvez remplir, même de manière anonyme. Vous pouvez aussi nous écrire par email avec vous à bfmbusiness.fr et puis nous écrire en direct, en message privé sur LinkedIn, sur Twitter et puis sur Instagram. On collecte vos questions, on y répond et puis derrière, on construit des émissions comme celle de ce midi, un petit peu particulière puisqu'on a un de nos auditeurs qui nous a écrit pour nous informer qu'il avait changé de boulot en regardant l'émission et on l'accueille. Il s'agit de Kenny Moreau. Bonjour Kenny.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous allez vous-même nous raconter votre histoire et je vous remercie de venir partager votre aventure professionnelle. On va également répondre à quelques questions sur justement... Êtes-vous prêt à quitter votre job? Comment on fait se trouver professionnellement avec un expert pour répondre à ces questions? Il s'agit de Guillaume Dupont. Bonjour Guillaume.
Bonjour Lorraine.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle Louis Dupont. On va d'abord écouter votre témoignage, Kenny. Racontez-nous ce qui s'est passé.
Alors, j'ai travaillé dans l'hôtellerie-restauration donc pendant 10 années. Mmh. Donc, j'ai cherché à me reconvertir suite à ma mise en chômage partiel.
Donc, en plein Covid.
Exactement, en plein Covid. Donc, du coup, c'était le moment pour moi pour changer de vie. Vraiment, en fait, j'avais du temps libre. Je voulais absolument aussi changer de métier. Mmh. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'était vraiment l'hôtellerie-restauration. C'est un super secteur. Mais,
qu'est-ce que vous faisiez exactement?
J'ai commencé comme valet de chambre, mmh. Ensuite bagagiste et réceptionniste concierge. Et dans l'hôtellerie-restauration, en fait, on a un rythme assez soutenu. Il faut être flexible pour son employeur. Et j'avais du mal à concilier vie de famille et vie professionnelle.
Vous travaillez dans quel coin?
Alors, j'ai travaillé à Opéra, donc
à Paris.
L'hôtel est aujourd'hui fermé. Donc, j'ai subi un licenciement économique. Et juste après ça, Kiliba m'a pris en CDI.
Et oui, parce que vous regardez BFM Business.
Exactement.
Midi, ou peut-être en replay ou en podcast. Et vous avez vu cette start-up, Kiliba, qui est venue recruter sur notre
Exactement.
Antenne. Qu'est-ce qui a été les déclics quand vous avez vu son patron, Amaury, venir partager les postes qui étaient à pourvoir chez lui?
Alors, déjà, j'ai un petit rituel. C'est entre midi et 14h. Je regarde toujours BFM Business. Donc voilà, pendant la
pause déjeuner,
avec plaisir. Et j'ai vu Amaury de la Rose, donc son discours m'a plu. J'ai tout de suite voulu postuler, 10 minutes après qu'il ait parlé. Donc du coup, j'ai envoyé un email, il m'a contacté, mais justement suite à son discours.
Son passage. Alors Kiliba, on va préciser, c'est une start-up.
Exactement.
Donc vous avez complètement changé d'univers, du HR, de l'hôtellerie, café, restauration,
Exactement.
À la Start-up Nation. Alors qu'est-ce que vous faites chez Kiliba et qu'est-ce que fait Kiliba rapidement pour conclure ce tour de présentation?
Alors Kiliba, c'est un logiciel d'email marketing pour les commerçants 100% autonome. Donc, mon rôle dans la boîte, c'est un rôle clé. Je suis business developer, donc mon but, c'est aller chercher des nouveaux clients et générer du chiffre d'affaires.
Alors, évidemment, comment on décide de quitter un job pour un autre? Comment on décide tout court d'aller chercher un nouveau job quand on se retrouve sans le sien? Guillaume, vous accompagnez sans doute des gens dans cette situation, dans plusieurs secteurs. Est-ce que le témoignage de Kenny fait écho à quelques-uns de vos clients?
Alors, tout à fait. Bon, déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une révolution en ce moment dans les entreprises, elles sont en majorité en difficulté pour recruter.
Donc, il y a 9 PME sur 10 qui galèrent.
Ouais, c'est assez énorme. La vapeur s'est inversée. Avant, c'était les personnes qui avaient du mal à trouver du travail. Aujourd'hui, ce sont les entreprises qui ont du mal à trouver les futurs collaborateurs. Donc oui, on a une vision d'ensemble au sein de Louis Dupont pour accompagner les entreprises sur leurs problématiques, notamment liées au capital humain, sur des enjeux de recrutement, mais également des personnes qui sont aujourd'hui en poste, qui ont envie d'avoir un nouveau projet professionnel, ou d'autres qui ne sont pas en poste, qui sont en attente d'une nouvelle opportunité. Et donc, on les conseille pour être plus visibles et développer justement des atouts pour être recrutés.
Alors, le manque d'évolution professionnelle, le manque de perspective, c'est la première cause des départs en France, la première cause de démission. On recevait recevait hier le BCG pour décrypter une vaste étude. Pour rebondir sur ce chiffre-là, un Français sur deux qui précise que le manque de perspective, c'est la raison pour laquelle il faut changer de job. Kenny, vous faites partie de la moitié de ces Français. Vous n'avez pas trop eu le choix, si je puis dire. Mais quand même, quelle est la première chose que vous pouvez conseiller à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient au chômage ou qu'ils soient, on va dire, en bout de course dans leur job actuel? Quel est le conseil que vous pouvez donner pour qu'ils se déterminent, pour qu'ils fassent le premier pas?
Le premier conseil, c'est ayez confiance en vous. Cassez les barrières, celles de l'âge ou celles des diplômes. Pour ma part, j'ai dû casser la barrière des diplômes, car je suis rentré dans la vie active assez jeune. J'ai juste le niveau de bac que j'ai passé à 25 ans.
Et il faut saluer l'hôtellerie, café, restauration qui accueille
exactement
tout le monde, tout niveau de
diplôme. Exactement. Je salue, c'est là où j'ai pu progresser. J'ai appris énormément. Et c'est les compétences que j'ai apprises dans l'hôtellerie, restauration qui a été très utile à Kiliba. Donc c'est pour ça que vraiment, n'hésitez pas à casser les barrières. Pour moi, c'était difficile. Et justement, le Covid a été un déclic pour moi pour casser ces barrières.
Un risque, une opportunité. Et vous, qu'est-ce que vous conseillez à vos clients, Guillaume, qui vient de vous voir? Le premier conseil?
Je pense que c'est d'abord travailler effectivement sur des leviers tels que la marque employeur, mais derrière sur l'expérience, effectivement avoir de la perspective, travailler dans des conditions où on se sent bien. Le télétravail notamment, c'est un sujet d'actualité qui a accéléré avec cette crise sanitaire, mais c'est effectivement avoir plus de visibilité vers où on peut aller demain.
Alors le télétravail, justement, on imagine que c'est quelque chose que vous avez découvert en travaillant dans une start-up parce que c'est possible sur votre poste actuel. Évidemment, il concerne pas tant de métiers que ça, il faut quand même le rappeler. Alors, est-ce que on peut dire que certaines personnes, peut-être vous au départ, Kenny, sont réticentes à changer de carrière parce qu'elles ont peur de ne pas avoir le bon profil, les bonnes compétences? Est-ce que Kiliba vous a formé? Comment ça s'est passé, votre reformation ou votre intégration dans une entreprise où vous êtes arrivé finalement tout neuf?
Exactement. Alors, quand je suis arrivé chez Kiliba, je ne connaissais rien à l'email marketing, je ne connaissais rien à la vente, sauf une théorie que je faisais pendant ma formation. Donc j'ai fait une formation via le CPF. Donc avec Kiliba, en fait, j'étais tout de suite mis dans des bonnes conditions pour monter en compétences. C'est vrai que c'est là-bas où j'ai énormément appris. C'est pour ça que c'est important que les entreprises accompagnent bien les nouveaux arrivants afin de monter en compétences. Donc c'est là où j'ai...
Guillaume, vous observez aussi chez les entreprises, peut-être où vous arrivez à placer des gens, que la formation, ça fait partie maintenant du parcours d'intégration?
Bien sûr, c'est un énorme levier sur lequel les entreprises travaillent. Les personnes qui intègrent des structures vont pouvoir développer des compétences. Après, il y a également d'autres enjeux tels que le freelancing, qui est aussi une option pour attirer des talents de façon plus ponctuelle pour répondre à un sujet de projet.
Kenny, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui justement n'ont pas les compétences qu'ils pensent nécessaires pour changer de secteur, changer de métier, changer d'entreprise, changer d'industrie, qu'est-ce que vous donneriez comme motivation ou comme conseil?
Alors, surtout comme je l'ai dit, n'hésitez pas à casser les barrières. Donc si vous avez une expérience, si vous avez fait quelque chose avant, ça sera très utile. Vraiment, on a tous une expérience, on a tous des compétences. Donc n'hésitez pas à casser les barrières. L'âge, tout le monde peut le faire, quel que soit l'âge. Même si vous n'avez pas de diplôme, vraiment allez-y, foncez. N'ayez pas peur d'apprendre, de réapprendre. Et puis je pense que voilà, c'est les conseils que je donnerais.
Guillaume, comment on fait pour écrire son propre storytelling et arriver en entretien, au téléphone, en visio ou en rencontre au débeauté pour raconter une histoire et dire prenez-moi, testez-moi, même si je n'ai pas les bonnes compétences? Et comment on fait pour changer le logiciel des recruteurs qui aussi doivent se dire ok, peut-être que cette personne n'a pas le profil adéquat, mais je prends le risque?
Alors c'est une préparation en amont, évidemment, ça passe par les réseaux sociaux, par LinkedIn, par la préparation de son CV, rendre les choses plus claires, être dans une logique où on fait la démonstration de ce qu'on peut apporter, même si effectivement ça va se développer au fur et à mesure. Et je dois constater qu'il y a quand même une prise de conscience de la part des entreprises qui elles-mêmes sont beaucoup plus ouvertes, laissent tomber des barrières, notamment sur les diplômes. À la base, peut-être une réponse à une pénurie parce que c'est difficile d'attirer des talents aujourd'hui. Mais en tout cas, effectivement, plus de diversité et on s'en rend compte. Je trouve ça très bénéfique, en tout cas, pour le marché du travail, également pour les âges. Avant, on était sur le jeunisme. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert à recruter ou intégrer des personnes plus seniors. Donc, en tout cas, le marché...
C'est le sentiment qu'ont les candidats qui cherchent du boulot et qui ont au-dessus de 45 ans.
Ça se transforme. C'est de la bonne nouvelle.
Alors, on va conclure en se pétant du point de vue des recruteurs parce qu'ils ont aussi des problèmes comme les recrutés ou les potentiels recrutés. Un des problèmes, c'est le turnover. C'est ces gens qui rentrent et qui sortent pour plein de raisons. La principale raison du turnover, on l'explique par une volonté de se consacrer à autre chose qu'à leur vie professionnelle. Vous, Kenny, vous avez travaillé dans un secteur où il n'y a pas de jour, pas de nuit, pas de week-end.
L'hôtellerie,
café, restauration, c'est ça. Est-ce que vous appréciez, là, d'être dans un rythme peut-être plus léger, ce qui ne veut pas dire que vous travaillez moins, mais est-ce que le changement de rythme, c'est quelque chose qui vous rend plus heureux?
Ça me rend plus heureux parce que je passe plus de temps avec ma famille, mes amis, etc., mes proches en général. Donc, c'est vrai que quand voilà, il y avait des événements de famille, par exemple, c'était compliqué. Donc là, vraiment, oui, c'est mieux.
Un mot pour conclure sur le fait que le patron de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, disait sur notre antenne hier ou avant-hier, il y a quelque chose qui change dans l'état d'esprit, on a moins d'appétit pour la chose professionnelle. Est-ce que, Guillaume Dupont, c'est quelque chose que vous constatez auprès des entreprises?
Alors, ça dépend. Alors, d'un point de vue général, oui, mais c'est vrai que c'est plutôt orienté sur un niveau de compétence et un niveau d'expérience. C'est vrai que c'est plutôt les nouvelles générations qui rentrent dans la vie active qui sont plus dures à capter et à intégrer parce qu'ils ont un rapport à l'entreprise qui est différent, qui a changé, et les entreprises doivent elles-mêmes s'adapter à cela. Mais sinon, dans le reste, tout va quand même bien. Beaucoup de gens sont au rendez-vous.
Voilà, il y a du boulot. Merci beaucoup, Kenny. Je tiens sincèrement à vous remercier de nous avoir écrit, d'avoir partagé votre histoire. Vous êtes nombreux à nous écrire, à nous raconter des bonnes nouvelles, mais celle-ci, elle était particulièrement bonne parce que vous avez quand même connu vraiment un tabassement pendant le Covid. Vous avez perdu votre job. On peut rebondir et on peut pivoter de carrière. Merci pour ce beau témoignage, Kenny Moreau, et on salue l'équipe de Kiliba. Et puis merci à vous, Guillaume Dupont, de Louis Dupont, d'être venu répondre à quelques-unes des questions qu'on nous adresse au quotidien. Dans quelques minutes, on recrute.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Il est midi 45, c'est l'heure de recruter sur notre antenne et nous allons rejoindre par FaceTime Antoine Lacarrière. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Vous êtes le directeur d'un parc qui fait rêver beaucoup de gens, notamment ceux qui prennent le métro du côté de Paris, parce que vous avez souvent des campagnes publicitaires. C'est la mer de sable. Vous êtes à la tête du plus vieux parc d'attractions français, 1963. Alors malheureusement, vous n'êtes pas au milieu de vos attractions, mais faites-nous le portrait rapide de ce vieux parc, mais qui est toujours en super forme.
Alors, effectivement, c'est un parc qui est assez incroyable. Il aura 60 ans l'année prochaine. J'ai envie de dire qu'il aura 6 fois 10 ans parce que nous sommes spécialisés sur les familles avec des enfants entre 3 et 12 ans. C'est une spécificité qui nous permet de dire qu'on est souvent la première expérience de parc à thème parce qu'il y a des parcs d'attractions qui sont plus vieux que nous. Le jardin d'acclimatation a 150 ans, mais c'était vraiment des forains qui se sont fixés. Nous, c'est un thème. Ça a été créé il y a 60 ans par un monsieur que peu de gens connaissent maintenant, qui s'appelle Jean Richard, qui était un monsieur qui adorait les animaux, qui avait monté déjà un cirque quelques années avant et qui a choisi de créer cet espace, enfin ce parc dans un espace absolument incroyable qui est la mer de sable, d'où je vous parle, et qui est un parc de 45 hectares dans lequel il y a 25 hectares d'une dune naturelle de sable dans lequel ben justement on a choisi de faire des décors, on a des chevaux, on a des poneys, on joue sur le thème de la conquête de l'Ouest avec trois nationalités, mais je crois qu'on va en parler dans deux minutes.
Peut-être voilà, que je parle trop. Vous avez une dune assez iconique. Alors, je parlais des Franciliens, parce que c'est vrai, vous n'êtes pas loin de Paris, vous êtes dans l'Oise, à Ermenonville, à côté de la forêt du même nom. Vous êtes 250 sur l'ensemble de l'année à faire vivre ce parc. Est-ce qu'il y a un petit peu de saisonnalité dans vos recrutements? Comment se passe l'ère post-Covid, si je puis dire?
Alors en fait, il y a 30 permanents qui fonctionnent, eux, bien sûr, toute l'année. Et il y a à peu près 100 postes d'ouverts, mais il me faut 250 personnes pour les combler. Parce qu'il y a des périodes où on est ouvert 7 sur 7. Donc il me faut une personne et demie pour pouvoir faire le samedi-dimanche qui va manquer à la personne qui a commencé le lundi. Donc effectivement, à la fin de l'année, il y a 250 contrats qui sont faits.
Et ça fait du monde. Alors vous êtes avec nous parce que vous recrutez quelques personnes pour vous rejoindre et c'est pas facile parce que vous avez un recrutement qui est forcément aussi local. On va pas faire 300 km pour venir travailler tous les jours chez vous. Pas de télétravail pour votre équipe. Listez-nous rapidement, Antoine, les quelques postes qui sont à pourvoir assez urgemment chez vous.
Alors, moi, j'ai des postes qui sont en pouvoir en permanence sur différents métiers, que sont la restauration, sur lequel là, on a souffert plus cette année que les années précédentes. Tout ce qui est opérateur d'attraction, donc une personne qui va gérer l'expérience des visiteurs à travers une attraction, tout ce qui va être vendeur conseil, on a des boutiques bien sûr, agent de propreté et agent d'entretien. Ça, c'est ce qui est en permanence en recherche parce que j'ai un turnover, parce qu'il y a des gens qui viennent travailler en 24 heures, en 35 heures, et en fait, je dois perpétuellement soit les remplacer, soit agrémenter mes équipes. Mmh. Donc ça, c'est ouvert tout le temps. Et puis après, j'ai parfois des postes, effectivement, en CDI qui sont ouverts. Là, j'ai travaillé en début de saison pour pouvoir les combler. J'ai eu du mal pour la partie restauration, comme je le disais tout à l'heure, notamment sur la partie CDI. Non, pas le seul. J'écoutais votre émission avant d'être connecté. Effectivement, il y a un changement de comportement et je le vois bien sur les jeunes générations. Parce que moi, j'ai la possibilité, contrairement peut-être à d'autres employeurs, de proposer à des jeunes de venir profiter du plaisir d'offrir du temps à des gens, à des familles qui n'ont pas forcément de vacances. Mmh. J'ai le résultat immédiat du travail qu'on fait et on peut s'en nourrir. Moi, je m'en nourris beaucoup. Celui qui ne s'en nourrit pas, c'est plus compliqué pour lui.
Mais écoutez, merci pour ce témoignage. On pense évidemment à tous les gens que vous allez accueillir qui ne traversent pas l'Europe pour partir en vacances, mais qui vont passer une journée ou deux avec votre équipe dans ce parc à la lisière de la forêt d'Ermenonville. Alors, si vous voulez postuler, si vous aussi, vous avez envie d'aller dans l'événementiel et en même temps d'avoir du boulot dans un contexte post-Covid, eh bien, c'est très simple. Vous allez sur Indeed, sur les différents forums d'emploi, vous allez retrouver l'ensemble des postes à pourvoir. On en a listé quelques-uns, des employés dans la restauration, des opérateurs d'attraction, mais aussi des agents d'entretien de propreté, car il faut des mains pour tous les jobs, pour faire vivre des lieux comme le vôtre. Merci beaucoup Antoine Lacarrière et tenez-nous au courant des recrutements.
Merci.
On rentre dans le studio à Paris où Frédéric Dermer m'a rejoint. Bonjour Frédéric.
Bonjour Lorraine.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Fixter. Avec vous, on va parler de comment entretenir sa voiture en 2022, thermique ou pas, mais de manière digitale. Expliquez-nous en une minute. Faites-nous votre pitch.
Alors, Fixter, c'est une start-up qu'on a montée à Londres il y a 5 ans maintenant pour simplifier la vie des automobilistes et des garagistes. Mmh. Parce qu'on s'est dit avec mes associés qu'à l'ère du numérique, entretenir sa voiture, ça devrait être aussi simple que de commander une pizza. Mmh. Donc, concrètement, on a monté un service en ligne qui est hyper simple où il suffit de choisir un créneau d'une demi-heure pour qu'on vienne récupérer la voiture, soit chez vous, soit sur votre lieu de travail.
Donc, quelqu'un vient.
Et à partir de là, Fixter s'occupe absolument de tout pour vous. Donc, le chauffeur vient, récupère la voiture, l'emmène dans l'un de nos garages partenaires qu'on a préalablement validé et testé avec les équipes de Fixter. Ce garage de confiance va faire toutes les opérations de maintenance que vous avez besoin. Donc, des choses en général assez classiques, des vidanges, des révisions, des changements de plaquettes de frein, de courroie de distribution. Mmh. Et lorsque tout est prêt, on ramène la voiture chez vous. Donc, concrètement, vous pouvez entretenir votre voiture sans bouger de votre canapé.
En B2B, en B2C?
On est très B2C, mais on a aussi des partenariats avec différents partenaires, qu'on soit des flottes automobiles, soit des clients qui ont eux-mêmes des voitures et qui nous aident à faire connaître notre offre.
Alors, votre entreprise, elle date de 2017. Elle a un pied à Paris et un pied à Londres, où il y a une grosse partie de vos équipes. Mais vous êtes avec nous ce midi pour recruter pour votre équipe française. Vous recherchez 25 personnes. Dites-nous en 2-3 points clés les postes à pourvoir.
Alors voilà, tout à fait. On a lancé Fixter en Angleterre et là, depuis un mois, on en teste en France. Et donc, notre idée, c'est de construire quasiment de zéro une équipe complète à Paris qui va avoir pour vocation de faire découvrir aux Français ce service qu'on a lancé en Angleterre et qui change la vie des automobilistes là-bas puisqu'ils peuvent se décharger intégralement sur Fixter de la maintenance de leur auto. Et donc, pour faire ça, on a une équipe complète à recruter avec un directeur général, avec deux pôles, on va dire un pôle marketing et un pôle opération. Dans ce pôle marketing, il y aura un directeur, il y aura des gens qui seront responsables plutôt du contenu, des gens responsables plutôt de l'acquisition. Et dans notre pôle qu'on appelle plus opérationnel, il y aura des chargés de clientèle qui vont s'occuper de nos clients, des gens qui seront en charge plutôt des garages, recruter, fidéliser les garages avec lesquels on travaille.
Et oui, parce que vous avez deux interfaces.
Et même une troisième avec des chauffeurs, puisqu'on recrute aussi beaucoup de chauffeurs autour de Paris.
Voilà, vous avez entendu, l'aventure, elle se passe à Paris, donc il faut un ou une DG pour s'occuper de la France, quelques postes de responsables de garage, des directeurs marketing, des experts en mécanique, ça aussi ce sont des jobs pénuriques. Ça se passe sur Welcome to the Jungle. Alors je vais vous épeler pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast, c'est Fixter, F-I-X-T-E-R. Et puis vous nous tenez au courant, Frédéric, de votre déploiement en France. Aujourd'hui c'est la France, peut-être que demain ce sera aussi le reste de l'Europe. Voilà, c'est la fin de 60 Minutes Business, de BFM Business avec vous. Merci beaucoup pour cette semaine à toute l'équipe. Demain c'est le best-of présenté par Camille Bourg. Vous retrouverez les meilleurs moments de cette semaine. La semaine prochaine c'est Thomas Schnell qui sera aux manettes de l'émission. Continuez continuez à nous écrire, continuez à partager avec nous vos témoignages, vos réactions, vos coups de gueule. On les lit, on les traite et puis on essaye de faire des bonnes émissions avec. Alors n'hésitez pas à nous écrire, je vous rappelle l'adresse avec vous @bfmbusiness.fr, mais aussi sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez nous écrire directement et sur notre site web toujours et encore. Je vous rappelle que l'ensemble de nos émissions sont à retrouver en podcast et en replay sur notre site web, en podcast sur l'ensemble d'ailleurs des plateformes Spotify, Deezer, Apple, et puis que tous nos contenus sont immédiatement distribués sur notre site web et puis bien sûr sur LinkedIn et Twitter. Très bon week-end, à très bientôt.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.